Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez bien Transistor et c'est parti pour le 50e numéro du journal radiophonique amplifié. On se retrouve ce matin dans le Forum Félix Pecco de l'ENS pour une version matinale à l'occasion de cet anniversaire. On est donc parti pour une heure d'actualité mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée.
Au programme, aujourd'hui on va commencer par un peu d'actualité, on fera le point sur les gilets jaunes, les élections européennes, on partira en Algérie et au Mali. Ensuite, il y aura la revue de presse et la notion pourrie d'Arthur, qui nous parlera de l'état profond en Algérie, puis l'édito écho de Julien, et on finira finalement par la chronique musicienne et le journal de la culture.
Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. Avec toi, Marie. Bonjour, Marie.
Bonjour Rémi, on va commencer par le national avec toi Benoît qui va nous parler des affrontements au Mans.
Tout à fait Marie. Des affrontements ont eu lieu lundi au Mans entre des professionnels forains et les forces de l'ordre suite au refus de la municipalité de les voir installer leurs attractions dans le centre-ville, leur proposant un terrain en périphérie de l'agglomération. C'est une véritable bataille rangée qui a eu lieu après qu'une caravane enflammée a été lancée contre les camionnettes des gendarmes lundi matin. C'est près de 1500 forains venus du nord, de Bretagne, de Normandie et du sud-ouest qui ont bloqué la ville, forçant l'évacuation de la mairie, l'arrêt du trafic de la gare TGV ainsi que de l'autoroute A11 dans les deux sens. Plus qu'une délocalisation, les professionnels forains dénoncent une volonté des municipalités de les chasser des centres urbains vers les périphéries, équivalent à un sacrifice de leur profession, selon les termes d'un membre du syndicat des forains, Sidunati, artisan de la fête. Cette mobilisation, inédite, a fait de la ville de l'ancien ministre de l'Agriculture rolandiste Stéphane Le Foll le lieu d'une bataille pour la reconsidération de la profession foraine pour les personnes mobilisées.
Et tout de suite, on passe avec toi Arthur, tu vas nous parler un petit peu des européennes, un point rapide sur la situation.
En effet, parce que le paysage politique se dessine de plus en plus pour les prochaines élections. Il ressemble juste de plus en plus à une peinture impressionniste, voire abstraite. Si le Rassemblement National et La République En Marche s'opposent sans exposer chacun un programme clair, la gauche s'éparpille, s'écharpe et accuse chaque parti de la désunion. Entre la non-invitation du débat public, du PCF de Yann Brossa ou de la génération de Benoît Hamon, la déception autour de Raphaël Glucksmann qui prend la tête d'une liste PS et qui pousse ses soutiens les plus à gauche à le quitter, et la chute tranquille de la France Insoumise qui va se retrouver à faire le même score que Benoît Hamon, on peut parfois comprendre pourquoi Yannick Jadot, tête de liste de ELV, se présente ni de droite ni de gauche. Et bien sûr, nous tombons dans cette petite litanie où chaque parti et chaque média voit dans les européennes des enjeux nationaux et l'occasion de relancer le pugilat et la compétition sportive politique.
Et on enchaîne tout de suite maintenant avec un point gilet jaune, Benoît.
Eh oui, la mobilisation sociale des gilets jaunes s'est poursuivie partout en France samedi dernier pour son 19e samedi consécutif, avec une participation relativement stable. Cette journée de mobilisation aura été marquée par l'appel des forces armées mobilisées dans le cadre de l'opération Sentinelle afin de défendre les lieux de pouvoir parisiens. Malgré une baisse des violences urbaines par rapport à l'acte 18, l'acte 19 a été marqué par de nombreux contrôles et arrestations préventives suite à la nomination du nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, dont le ministère s'est félicité. En région, la journée a été très médiatisée en raison de fortes violences policières, toujours au rendez-vous, particulièrement dans le sud, à Nice, où une personne âgée du collectif Attaque est tombée dans le coma suite à une charge des forces de l'ordre sur un groupe de manifestants pacifistes.
Et on termine ce national avec la réforme de la fonction publique, qui me semble.
Eh oui, un nouveau contrat social avec les fonctionnaires, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Action et des Comptes Publics ainsi que son équipe devant le Conseil des ministres hier lors de la présentation de la loi visant à réformer la fonction publique. Le projet de modernisation, selon les mots du ministre, prévoit entre autres une refonte des instances du dialogue social par la suppression de pas moins de la moitié de celles-ci. En effet, les commissions administratives paritaires seraient rejetées à une simple fonction de recours. De même, les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont amenés à fusionner. Outre le recours accru aux contractuels, la réforme à venir devrait permettre une rémunération au mérite de ces derniers, en tenant compte de leurs résultats professionnels ainsi que de ceux de leurs services. Les syndicats dénoncent dans un communiqué l'ouverture à la dégradation du service public, une fausse modernisation sur principe de coût budgétaire et une généralisation de la contractualisation des conditions de travail au sein de la fonction publique.
Passage maintenant à l'international et on commence avec une visite, celle de Xi Jinping en Europe. Une visite inédite, très attendue et cruciale pour l'avenir de l'Europe. Voilà comment la presse décrit la tournée qu'a effectuée en Europe le président chinois Xi Jinping du 23 au 26 mars dernier. Le programme, une halte à Nice, à Monaco puis en Italie, et une rencontre avec Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Mais en Europe, on reste méfiant face à une Chine qui cherche ouvertement à défendre son projet des nouvelles routes de la soie, clé de voûte du programme du rêve chinois qui consiste pour la Chine à devenir première puissance mondiale en 2050. Si l'Italie pourrait devenir le premier pays du G7 à signer un mémorandum d'entente avec Pékin sur sa participation aux nouvelles routes de la soie, que Monaco a signé un accord avec Huawei pour la mise en place de la couverture 5G de son territoire et que la France a annoncé la signature d'un contrat pour commande de 300 Airbus pour 36 milliards de dollars, l'enjeu pour les Européens est de taille. Tenter de faire front commun face à la stratégie d'influence que met en place une Chine aux ambitions croissantes. Dépasser les divergences pour mettre en place un front commun européen face à la politique chinoise, tout en développant des partenariats sino-européens aussi essentiel qu'inévitable alors que Xi Jinping achève son séjour, l'Europe semble avoir défini un de ses objectifs de politique extérieure pour les prochaines années, un objectif que semble incarner le président Macron, puisque s'il prône un accord sur les investissements entre Chine et Union européenne, il a également appelé la Chine à, je cite, « respecter l'unité et les valeurs de l'Europe ».
En Algérie, les rats quittent le navire après avoir tergiversé sur le moyen. L'armée et le parti principal, le RND, lâchent Bouteflika et décident de soutenir la colère populaire. C'est assez étonnant quand même de voir une bipolarité pareille et on se demande si Bouteflika n'est pas le mieux portant parmi la tête pensante de l'Algérie. Si on n'est pas touché d'Alzheimer, on se souvient que ce même chef d'état-major, Khaled Salah, m'a menacé le peuple algérien il y a quelques semaines de manifester sa colère. Tous se souviennent de l'article 102 actuellement qui met en place par intérim le président du Sénat si le président n'est pas en moyen d'assurer le pouvoir. L'armée et le RND souhaitent sûrement en fait s'assurer pour eux-mêmes la transition, ce qui peut très sûrement tendre le peuple dans les prochains jours à venir.
Retour maintenant sur une décision qui a ravivé les tensions au Moyen-Orient comme sur la scène internationale. Le 25 mars dernier, Donald Trump a signé un traité reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, territoire conquis par Israël en 1967 lors de la guerre des Six Jours, puis annexé en 1981 et occupé aujourd'hui par la communauté druze, une branche de l'islam chiite. Si le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a bien sûr salué la décision et compte faire de sa bonne relation avec Trump un argument de campagne à l'approche des législatives du 9 avril, la communauté internationale a fermement désapprouvé ce traité. Les Druzes d'abord, qui se reconnaissent syriens et refusent de prendre la nationalité israélienne, ont longuement manifesté suite à l'annonce du président américain. La Syrie, elle, dénonce une atteinte flagrante à sa souveraineté et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si la Jordanie voit dans cette décision un cadeau électoral fait à Netanyahu, le secrétaire général de la Ligue arabe a jugé la décision de Trump, je cite, « nulle et non avenue dans le fond et dans la forme », un point de vue qui sera sans doute réaffirmé au prochain sommet de la Ligue arabe prévu le 31 mars à Tunis. En France et en Europe, on ne reconnaît pas une décision que l'on juge contraire au droit international. Une question épineuse donc, qui reste pour l'instant en suspens. Mathilde, maintenant tu nous parles de Monsanto qui vient de perdre un procès.
Oui, une petite bonne nouvelle pour ce journal, le procès Roundup qui a condamné Monsanto à payer près de 81 millions de dollars à un malade du cancer. Le tribunal fédéral de San Francisco a considéré que le groupe n'avait pas agi suffisamment pour prévenir les usagers du risque cancérigène de ce désherbant qui utilisait bien sûr du Roundup et du glyphosate. C'est le troisième revers judiciaire subi par la firme en quelques mois, mais Monsanto a déclaré qu'elle ferait appel.
Décidément.
Et on finit par un bref détour du côté du Mali, qui se relève doucement après avoir subi samedi dernier une des attaques les plus meurtrières de son histoire récente. Des milices Dogon ont en effet attaqué un village Peul et tué 160 personnes. Suite à l'attaque, les ministres se sont réunis en conseil extraordinaire pour limoger les principaux chefs de l'armée et pour dissoudre le groupe de chasseurs Dogon, sans pour autant les désarmer, ce qui inquiète les Maliens et la communauté internationale. Une attaque que l'on explique par l'absence de l'État dans certains territoires du Mali central et par l'affrontement traditionnel entre les éleveurs Peul, dont une partie a récemment été recrutée par le prédicateur djihadiste Amadou Koufa, et les ethnies Dogon, qui pratiquent, elles, principalement l'agriculture. En représailles, hier et avant-hier, 6 villageois Dogon ont été tués dans 2 attaques distinctes. Une crise multidimensionnelle donc, que Ouagadougou tente tant bien que mal de résoudre en renforçant une sécurité qui laisse encore à désirer.
Merci beaucoup à Marie, à toute l'équipe pour ce journal. Et on te retrouve maintenant, Marie, pour ton billet d'ailleurs avec l'actualité internationale. Alors, où part-on cette semaine ?